Alors aujourd'hui, nous ne lirons qu'un passage qui est assez long dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Et ce n'est que le début et la fin en fait de ce chapitre 15. Tous les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant: cet homme accueille les gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Et là, il part sur la parabole du berger avec la brebis qui est perdue, qu'il va chercher. Une deuxième parabole avec une femme qui a perdu sa pièce et qui la retrouve. Et Jésus leur dit encore: un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai chez mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Notre Dieu, ta parole est source de vie, sanctifie-nous par ta parole. Alors oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui, le découpage de notre évangile ampute le chapitre 15 de deux des trois fameuses paraboles de la miséricorde, on les appelle aussi les paraboles de la joie, que Luc a probablement très volontairement regroupées dans ce même chapitre. Et bon, ça me scandalise à chaque fois. Alors aujourd'hui, pour nous dégager un peu de juste le fils prodigue, justement, je vous propose de nous arrêter aujourd'hui sur le message de l'ensemble de ce chapitre, peut-être le plus connu de la Bible. Pour commencer, bien sûr, il faut d'abord nous intéresser au contexte, pour bien saisir à qui Jésus adresse ces trois paraboles et dans quelles circonstances. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui: cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors voilà le contexte. Jésus est apparemment dans une auberge en compagnie de pêcheurs, en compagnie d'hommes et de femmes de mauvaise compagnie, justement, en compagnie d'infréquentables aux yeux des religieux, en compagnie de malheureux, de méprisés, d'intouchables, de mal aimés aux yeux de Jésus. Et ces religieux, eux, refusent d'entrer, mais ils restent à l'extérieur. Ils restent à l'extérieur, pas trop loin quand même, pour pouvoir entendre Jésus, l'écouter à travers les ouvertures, et ils écoutent. Et par le génie qui le caractérise, Jésus, en racontant ses paraboles, lorsqu'il semble s'adresser aux personnes qui sont autour de lui, aux pécheurs, eh bien il parle en même temps assez fort pour être bien entendu des pharisiens qui demeurent à l'extérieur. Et par cette bonne nouvelle, donc cet appel qu'il fait aux pécheurs, il parle dans le même temps aussi et peut-être surtout à ceux qui l'écoutent à l'extérieur, dehors, et il leur dit ainsi deux messages. Voilà pourquoi moi je suis ici avec les pécheurs, et voilà pourquoi vous, vous devriez entrer pour vous réjouir avec nous. Alors on comprend bien tout ça dans l'attitude du fils aîné à la fin de l'histoire du fils prodigue, ce fils qui ne veut pas entrer parce qu'il est en colère. Ça nous met bien, on reconnaît bien là la situation du contexte en fait. Et en préparant ce message dans ce chapitre, pourtant que je connais plutôt bien, c'est la première fois que j'y entends proclamer l'évangile dans la bouche des détracteurs de Jésus eux-mêmes, je ne sais pas si vous l'avez entendu, bien malgré eux-mêmes, probablement qu'ils ne voulaient pas annoncer l'évangile en disant ça, on s'en doute bien sûr, mais c'est bien là tout le cœur de la bonne nouvelle du royaume qui se dit dans leur constat. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Voilà bien une claire vision de l'attitude de Dieu avec nous. Et c'est justement cette bonne nouvelle, c'est cette bonne nouvelle qui normalement devrait en être une pour tout le monde, qui scandalise ces religieux. Pour eux, c'est insupportable et une bonne nouvelle d'ailleurs à côté de laquelle ils risquent de passer eux-mêmes, une bonne nouvelle qui, au lieu d'être un sujet de joie, est plutôt, comme pour le frère aîné de la parabole, synonyme, pour eux qui ne veulent pas rentrer, de colère, de jalousie, de mépris, d'amertume, de ressentiment. Enfin, voilà tout l'esprit qui anime ces religieux dont on pourrait quand même attendre autre chose. Alors, Luc choisit d'abord deux paraboles parallèles, selon un procédé qui lui est propre, qui lui est unique, avant d'élargir le thème avec celle que nous avons lue. Lequel d'entre vous, s'il perd une brebis, ne laisse les 99 autres dans un enclos et va chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve, et quand il la trouve, il la met tout joyeux sur ses épaules, et il dit à ses voisins et ses amis, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Ou quelle femme, si elle perd une pièce d'argent, ne commence par allumer toutes les lumières et à la chercher jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et quand elle l'a trouvée, elle appelle ses amis, ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » Alors vous le remarquez, quand on entend ces deux histoires dans la foulée, on réalise, on perçoit bien qu'elles sont strictement parallèles. C'est une technique d'ailleurs qui, lorsque on souligne tous ces mots qui sont en commun, qui sont en parallèle, on tire l'essentiel de la parabole, du coup. C'est ce que veut dire la parabole qui est gardée et qui est répétée en parallèle dans les deux histoires. Ici, quatre choses, perdre, chercher jusqu'à trouver, appeler, se réjouir. Une fois c'est une brebis, une fois c'est une pièce, mais on comprend bien que l'histoire ne veut pas nous parler ni de brebis ni d'argent. Elle veut nous parler de la recherche ardente et de la joie d'avoir trouvé. Si vous voulez, les parallèles, les mots communs aident à découvrir quel est le thème fondamental de la parabole. Ce thème, c'est ce qui est en parallèle et le reste, tout le reste, c'est de l'image, de la décoration, de la dentelle qui a peut-être moins d'intérêt, moins de porter. Perdre, chercher jusqu'à trouver, appeler et se réjouir. Voilà ce que disent ces paraboles. Maintenant, lorsque nous les entendons, que nous dit Jésus à travers elles aujourd'hui ? Eh bien, peut-être déjà que nous sachions et que nous nous rappelions au monde qu'aucun homme n'est jamais abandonné par Dieu. Personne ne l'est. Aucune n'est définitivement perdue, puisqu'il est recherché activement, continuellement, par quelqu'un qui l'aime et qui désire le bénir. Dieu ne se contente pas d'attendre que le pécheur revienne, il part à sa recherche. Voilà le Dieu que Jésus nous révèle, qui est souvent à milieu de celui auquel nous croyons, parfois malgré nous. Pour ce Dieu que Jésus nous invite à contempler, chaque homme, chaque femme a une valeur unique, inestimable. Nous avons un Dieu comme ce berger. Hein. Pour lui, on dirait qu'il n'y a qu'une seule brebis qui compte, c'est celle qui est perdue. Un Dieu qui continue sans cesse à penser à ceux qui l'ont abandonné, un Dieu qui aime ceux qui ne l'aiment pas, un Dieu qui souffre parce qu'une seule de ses brebis lui fait souci. Et dans les moments noirs de nos existences, eh bien, rappelons-nous bien que cette brebis, c'est moi, c'est toi, notre voisin, notre voisine, un tel, une telle, qui est autour de nous, aucun n'est abandonné de Dieu parce que Dieu est à sa recherche. Oui, cette brebis qui a choisi son propre chemin et qui peut-être s'est égarée, le bon berger se met à sa recherche et il ne se décourage pas, il ne se laisse pas arrêter lorsque la brebis fuit et prend la fuite devant lui. Il persévère jusqu'à ce qu'il la trouve, nous dit le texte. Quel enseignement pour nous qui, si facilement, nous laissons arrêter dans nos recherches sur Dieu. On voit qu'on n'est pas sur le même registre parce que lui ne se lasse pas. Il est dit que pour atteindre son but, le bon berger laisse les 99 autres et il a pris le risque de laisser ses brebis seules quelques heures. Là, peut-être encore quelque chose pour nous. Pour atteindre la brebis perdue qui est à l'extérieur, y a-t-il quelque chose que je dois risquer? Mon confort, mon planning, ma réputation, mon anonymat, que sais-je? Peut-être il faut poser la question à l'esprit qui nous le mettra très au clair. Mais que dois-je quitter, que dois-je risquer pour pouvoir travailler à élargir le royaume de Dieu plus librement? De quoi dois-je me débarrasser ou laisser de côté pour oser un peu plus aller vers l'autre dans une attitude libre, tranquille, joyeuse, bienveillante, accueillante, qui soit une porte d'entrée dans le royaume. Aller la chercher comme le berger va chercher sa brebis. Une chose est certaine, c'est que nous ne pouvons pas nous contenter d'être des chrétiens le dimanche matin, lorsque le troupeau est réuni. C'est difficile de spotter la brebis perdue lorsque nous sommes les 99 autres dans cette atmosphère de propre justice à l'intérieur. Et puis la parabole nous présente un Dieu qui se réjouit lorsqu'enfin il retrouve celle qu'il avait perdue. Un Dieu qui se réjouit de pardonner aux pécheurs. Tout le ciel se réjouit avec lui, quand donc, quand un seul revient, quand un seul change, un seul, car à chaque fois, pour un seul, le mal recule dans le monde. Pour un seul, le royaume de Dieu s'agrandit, parce que chacun et chacune, nous avons une importance particulière à ses yeux et une mission, une vocation pour que le royaume s'élargisse et grandisse. Quand je dis royaume de Dieu, entendez faire un monde meilleur. C'est ça la mission d'élargir le royaume de Dieu, c'est de faire en sorte, chacun à notre place, que le monde devient a better place. C'est C'est l'essentiel de l'évangile. Et c'est ce qui est dit ici. Luc, d'ailleurs, si attentif aux femmes, c'est le seul à nous rapporter cette seconde petite parabole maintenant, avec cette femme qui a perdu la pièce. Et il veut nous redire la même chose, juste par une autre image, par une répétition qui n'est pas juste une nouvelle illustration. Jésus insiste comme pour nous dire que ce qu'il vient de révéler, ce n'est pas voilà, une pensée qui lui a traversé la tête, ce n'est pas une erreur de passage peut-être, ou voilà, une exagération occasionnelle, c'est vraiment ce qu'il a l'intention de révéler de Dieu. L'amour inouï de Dieu est ici, dans ses paroles, réaffirmé. Et ce n'est pas une grosse fortune, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'elle a perdu cette femme. C'est une pièce. Alors peut-être quelquefois on a l'impression de ne pas valoir grand-chose devant Dieu, qu'est-ce qu'il aurait à me chercher, qu'est-ce qu'il aurait de bénédiction pour moi, je ne suis pas grand-chose. Mais ici cette femme donne tout ce qu'elle a pour trouver sa pièce, comme Dieu donne tout ce qu'il a pour nous trouver. Et elle aussi veut communiquer sa joie dans le texte. Hein ? Eh bien c'est ainsi qu'est Dieu. Nous n'avons sans doute pas suffisamment compris cette atmosphère de joie qui sort du cœur de Dieu et qui éclabousse toute la bonne nouvelle, tout l'évangile, comme une bonne nouvelle pour nous en permanence, et qui voudrait d'ailleurs submerger toute l'humanité, j'imagine, pas seulement les croyants, pas seulement l'Église ou les religions, mais le monde. Et la joie de Dieu est contagieuse, parce qu'elle vient sur la joie des anges. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui revient à Dieu. Toute cette fête d'allégresse pour la conversion d'un seul. Alors ces paraboles que nous venons d'entendre, si elles sont une prédication sur l'amour d'un Dieu qui nous cherche jusqu'à ce qu'il nous trouve, elles sont aussi une prédication sur la nécessaire conversion du pécheur. C'est-à-dire celui qui se trompe de chemin, celui qui rate la cible. Vous savez qu'étymologiquement, c'est ça. C'est pécher, c'est rater la cible. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire peut-être passer à côté de sa vie. Une prédication, en tout cas, qui appelle son demi-tour, son retour. Et en fait, on y voit là, dans ce chapitre 15, un ensemble, une construction. On y voit d'abord les deux aspects d'une même vérité sur la conversion, justement, deux aspects complémentaires. Les deux premières paraboles, c'est la recherche de Dieu, Dieu qui est après nous et qui nous cherche, et comme on cherche la brebis, comme on cherche la drachme. Mais la troisième parabole, c'est celle du retour à Dieu. Le Père ne va pas chercher le Fils. C'est le Fils qui revient vers le Père. Dieu cherche celui qui est égaré et le perdu revient vers Dieu. Et ce qui nous est dit ici avec force, c'est quand même que c'est toujours Dieu qui prend l'initiative. C'est raconté dans ce sens-là. C'est lui qui prend l'initiative de chercher jusqu'à trouver celui qui est perdu. L'amour consiste en ceci, nous dit Jean. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais lui qui nous a aimés le premier. Alors, en ce début de printemps, allons-nous nous laisser aimer? Allons-nous donner de la joie à Dieu et entrer dans cette joie qu'il nous propose? Comme ce fils qui revient au Père, et allons-nous nous laisser accueillir, combler de dons à notre retour et faire la fête? Laisser Dieu faire la fête avec nous? Bonne question. En ce début de nouvelle saison, oserons-nous prendre la décision de quitter ce qui nous empêche encore de chercher avec persévérance celui qui se perd dehors, celui qui passe peut-être à côté de sa vie? Saurons-nous aussi nous réjouir avec elle lorsque nous voyons une personne changer de vie, changer de regard sur Dieu, sur elle-même, prendre conscience que la vie dans le royaume est quelque chose de formidable, de nouveau, de facile? C'est facile d'entrer dans le royaume, c'est juste un changement de regard. Et vous l'avez remarqué, Jésus ne conclut pas la parabole du fils prodigue. Il ne dit pas si finalement le fils est entré, lui qui était si en colère à l'extérieur. Comme Luc ne nous dit pas si les scribes et les pharisiens entrent finalement dans l'auberge avec Jésus pour se réjouir avec les autres. En racontant ces histoires, il laisse ses auditeurs sur cette porte ouverte, libre. Une porte ouverte aussi, bien sûr, devant nous, aujourd'hui. Alors, allons-nous rester juste à la porte et écouter l'Évangile de l'extérieur, comme ça, en tendant l'oreille, ou allons-nous oser entrer pour vivre et nous réjouir avec Jésus, festoyer avec nos frères, profiter ensemble des bénédictions du royaume? Voilà en tout cas quelques questions qui s'offrent à notre réflexion ce matin, que chacun et chacune, nous puissions les prendre avec nous dans nos cœurs et les méditer tranquillement, paisiblement, dans la présence de l'Esprit. Amen.